Donc, peut-être faut-il préciser que donc, sur la commande, sur ce qui concerne la recherche en éducation, un petit peu la situation, là où se trouve le couple et si est-ce qu'on l'a dedans, donc je ne vais pas me lancer dans un autre truc, simplement, il me semble que l'équipe s'est nourrie au départ des apports de plusieurs travaux, que ça soit, je vais faire un peu de tous azimuts, mais les travaux du type de ceux de Lilian-Alexander Jamaski sur l'étude des savoirs scolaires, des travaux du Centre de sociologie européenne, bon, Bourdieu Passeron, et d'autres comme Chambord et Rome, des choses comme ça. Peut-être avec une articulation, me semble-t-il, mais après une lecture personnelle, une articulation entre la compréhension de ce qu'on pourrait appeler des curricula, des parcours d'études et des contenus de savoir, mais pas, comment dire, moins en tant que, cette étude des savoirs moins en tant que telle, que pour ce que les élèves en font quand ils se confrontent à ces savoirs. Parce que finalement, on avait des traditions de recherche assez scindées, des sociologues qui étudient beaucoup l'école et les savoirs, d'autres sociologues qui étudient beaucoup les façons de raisonner, disait-il, des acteurs, des sociologies plus interactionnistes. D'autres travaux en éducation qui portaient sur l'activité intellectuelle des élèves, qui étaient quand même beaucoup plus dévolus à une tradition psychologique qu'à une tradition marquée par la sociologie. Et finalement, le pari un peu des fondateurs de l'équipe, me semble-t-il, a consisté à emprunter différentes traditions pour les articuler, afin de comprendre ce que font les élèves face à ce que l'école leur propose. C'est un peu jargonné comme ça, mais bon. Il me semble qu'il y a eu une première phase de recherche dans l'équipe qui a porté sur ce qui a été appelé le rapport à savoir, qu'on a un peu laissé de côté depuis, pour plusieurs raisons. Je vais aller très vite, voilà, après si on y reviendra, mais d'abord, le rapport au savoir, ça reste quand même un peu essentialisant parce que le rapport au savoir n'est d'abord pas le même selon les disciplines pour un même élève. Il y aurait tout un tas de raisons. Et les recherches se sont davantage axées sur finalement la compréhension de l'activité intellectuelle des élèves face aux différents types de savoirs qui leur sont proposés. Alors, je ne vais pas rentrer en détail, l'équipe s'est un peu élargie depuis, bon, je ne vais pas présenter tout le monde, mais que ça soit des recherches autour des disciplines littéraires, des travaux de Gaël Gauthier, de Jean Brochet, ou de la philo, mais aussi des travaux de Patrick Rayoux récemment, sur la difficulté des lycéens à s'approprier des modes de raisonnement philosophiques. Et quand même, pour l'instant, on restait cantonné à l'étude de l'activité des élèves face aux disciplines de tradition littéraire, on va dire, hein, même s'il y avait des travaux sur la philo, le français, les SES, l'histoire géo, voilà, c'était cet ensemble de disciplines-là. Et plus récemment, mais on n'a pas encore beaucoup publié là-dessus, voire pas du tout, on s'est associé avec des collègues didacticiens dans le cadre d'un réseau de recherche qui s'appelle RESEDA, pour mener des travaux de type similaire en comparaison entre français et maths. Donc on a une recherche qui est en train de s'achever, où on avait deux sous-groupes, l'un qui étudie en parallèle le passage grande section CP, et l'autre qui étudie le passage CM2-6e. Puisque les travaux précédents avaient plutôt porté les collègues sur le collège, mais plutôt même la fin du collège et le lycée. La difficulté, une des difficultés de la recherche en éducation aujourd'hui, me semble-t-il, c'est finalement le contexte social et politique dans lequel elle s'inscrit, mais aussi son contexte institutionnel et son financement. Pour commencer par ça, il me semble que les appels d'offres tels qu'ils sont formulés aujourd'hui, notamment par l'ANR, amènent à avoir des modes de réponse, de conception de la recherche qui sont très pilotés par ce que sont les sciences expérimentales. Quand on est un labo qui, mine de rien, n'est pas un gros labo, ça veut dire que pour monter un dossier AMR ou un dossier financement européen, enfin, il faut quelqu'un qui soit dessus à temps complet pendant plusieurs mois. Donc, ce qui est quand même très compliqué. Nous, on s'est fait refuser un appel d'offres il n'y a pas très longtemps, parce qu'on avait dit qu'on ferait des entretiens semi-directifs. Et retour à l'expéditeur, c'est quoi un entretien semi-directif ? Si les dossiers sont examinés par des gens qui ne savent pas ce que c'est que ça, ben, ça devient très compliqué. Je pense aussi que ça devient assez compliqué de tenir un discours de chercheur, d'avoir une volonté de recherche qui est, qui assume deux choses qui pourraient être contradictoires, mais qu'on peut penser de façon dialectique, et c'est d'un côté d'assumer que les choix de recherche ne soient pas complètement pilotés par des choix axiologiques, et de l'autre côté que pour autant les recherches ne sont jamais neutres et qu'on peut penser l'arrière-plan de valeurs, de conception et de choix qui les sous-tend, et en même temps mesurer les effets qu'elles peuvent produire et être vigilant, y compris sur les effets qu'elles peuvent produire. Donc on n'est pas dans un rapport de dichotomie, ni dans un rapport de fusion. Le rapport est toujours à penser, et je pense que la volonté de penser ce rapport-là de cette manière, ben, n'est pas bienvenue dans le contexte politique actuel. Voilà, puisqu'il faudrait avoir la recette, ou même si ce n'est pas une recette, l'argument d'autorité qui amène tout le monde à se plier à la façon sur laquelle il va falloir se modeler, ou ce qui est un autre danger qui n'est pas celui qui est au pouvoir aujourd'hui, mais c'est un autre argument, c'est celui du relativisme. Chacun fait ce qu'il veut finalement dans son coin sans plus de débat sur les effets que ça produit. Et qu'on oscillerait comme ça par mouvement de balancier entre prescription autoritaire où finalement chacun fait ce qu'il veut sans qu'il y ait débat, confrontation sur les effets produits. Je ne m'autoriserai pas à parler au nom de toute l'équipe sur ce sujet, c'est pour ça que je vais emmener peut-être plus précisément à mes travaux, mais j'ai travaillé, donc là je fais le VRP pour la dispute, t'as vu Jérôme, je fais ça bien, c'est un peu de collection, donc il y a un carton, 20 euros pour la dispute pour ceux qui savent, qui voudraient se tromper, qui ne l'auraient pas encore. Donc plus sérieusement, c'est le bouquin est issu de ma thèse de doctorat, et j'ai suivi des élèves pendant près de 2 ans, la fin du CM2, à partir du mois de février en CM2, l'année 6e et le premier trimestre suivant, pour essayer de tordre le cou à plusieurs idées reçues. À l'époque, quand j'ai commencé ma recherche, ça vous avait situé la période, c'était 99, j'ai voulu tordre le cou à l'idée selon laquelle c'était au collège que tout foutait le temps, que tout allait mal et que les anciens du collège n'allaient pas un pied. Bon. Sauf que l'histoire m'a un peu rattrapé parce que le temps de la recherche et le temps de la vie ne sont pas les mêmes, le temps de recueillir des données, des analyses, etc. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que les problèmes qui explosaient au collège n'étaient pas les problèmes seulement du collège, mais les problèmes de toute la scolarité qui interrogeaient de façon différente et qui se révélaient de façon différente de la maternelle à l'université. Et donc pour montrer que ce n'était pas que les problèmes du collège, moi j'ai enquêté en amont pour montrer en quoi les mêmes types de problèmes existaient à l'élémentaire et au collège et se révélaient de façon différente. Sauf que j'étais un peu embêté quand le bouquin est sorti, puisque c'était à peu près à 15 jours près au même moment que le rapport du HCE qui disait « mais non, finalement le grand coupable, c'est plus le collège, c'est avant, c'est pas sa patate chaude ». Et que, juste pour l'anecdote, parce que je m'étais toujours à la raconter, il y a 6 mois de ça, Je suis responsable du sein des sciences de l'éducation ici, parce que je suis le dernier arrivé et que c'est du visage traditionnel. On refaisait la maquette, et on se réunit toute l'équipe pédagogique, et je ne suis que maître de conférence. Hein, donc il y avait les profs des universités qui étaient présents, et qui disent quand même qu'il faudrait bien passer à la licence, parce que nous avons un problème à l'entrée en master, le niveau est catastrophique, c'est plus ce qu'il était. Parmi les collègues qui étaient présents les deux conf, on est un certain nombre à dire, quand même, très chers collègues, il faudrait quand même réfléchir à ce que les étudiants qui arrivent en master, ils ont été formés aussi par des profs qui enseignent pour un quart de leur service entre les cycles. Donc la question n'est pas qu'est-ce qui se passe en licence, mais qu'est-ce que nous faisons sur notre notion en licence. Et puis évidemment, mes collègues de seconde bande qui rajoutent immédiatement, ouais, mais fait quand même, hein, on ne va pas se la raconter, quand les étudiants m'arrivent au sortir du bac, c'est plus ce que c'était, quoi. Tout fout le temps. Donc, évidemment, le problème du second cycle au premier cycle, évidemment, quand vous le rendez au lycée, je l'évite parce que vous m'avez vu venir, mais je le fais quand même pour le plaisir. Donc, évidemment, les collègues de lycée disent qu'à l'entrée en seconde, c'est plus ce que c'était. Vous savez comme moi que le constat à l'entrée en sixième, on dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent à l'école élémentaire? À l'école élémentaire, moi, quand j'ai fait la rentrée, vous savez, la réunion que les instituts font, mes parents, de ma fille, j'ai entendu à la rentrée en petite section, il y a 5 ans de ça, ils étaient là depuis une semaine. Hein. J'ai un niveau très hétérogène, je vais faire ce que je veux voir. Je ne doute pas que, évidemment, on a bien à se dire, mais qu'est-ce qu'il fout dans les familles, le niveau à l'entrée à l'école, mais qu'est-ce qu'il est. Et bon, tout ça pour rigoler, pour dire plus sérieusement qu'une fois que la boucle est bouclée et que tout le monde s'est à montrer le voisin du doigt, il me semble que plus sérieusement, plutôt que de tomber dans le panneau, quand même politique, dans lequel on voudrait nous faire tomber, de dire il faut chercher le coupable pour montrer qui c'est et qu'on va montrer à la vindicte publique, je crois qu'il serait plus sérieux d'envisager les problèmes de l'école comme étant de réels problèmes à traiter, à comprendre, mais comme étant des problèmes qui traversent toute la scolarité et, je vais y venir, et qui sont finalement les problèmes issus d'un état intermédiaire de l'histoire de notre système scolaire, qui a un équilibre instable, à un moment historique, entre une phase de démocratisation partielle, de massification avec démocratisation partielle, mais qui n'est que partielle, et que, finalement, les problèmes qu'on rencontre, selon qu'on a la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide, reste le constat de comprendre pourquoi on en est là, et puis en termes politiques, parce qu'il faut naviguer entre les deux, ça les mélanger, de qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on revient en arrière en disant vous voyez bien que la bouteille est à moitié pleine, à moitié vide, donc c'est pas la peine de s'acharner, on laisse tomber, ou vous voyez bien que la bouteille est à moitié vide, c'est pas suffisant, la question c'est comment la remplir complètement. Mais là, c'est pas tout à fait l'objet de la journée, mais quand même. Donc, une des questions auxquelles je voulais tordre le cou aussi, c'était de se dire, mais parce qu'avant, j'avais travaillé sur les classes relais, sur tous les dispositifs qu'on met pour traiter les élèves dont on dit qu'ils sont en difficulté. Et finalement, avec d'autres travaux, je ne sais pas si c'est tous, ceux de Daniel Ten et Mathias Signé, ceux de Bertrand, etc., il y a un certain nombre de travaux accumulés qui montrent que finalement, les élèves que l'on fait atterrir en classe relais, dans tous les dispositifs périphériques à la scolarité unique, ben, quand on remonte, les travaux de Sylvain Roncoliki, quand on remonte les dossiers scolaires chronologiquement, je faisais le même constat, on se rend compte que les dossiers scolaires montrent que effectivement les membres ont pété les plombs au collège et sont devenus insupportables, voilà, je ne vais pas dire le contraire, mais que si on remonte très loin dans la scolarité, les traces des enseignants élémentaires, voire de maternelle, disent que c'était de bons petits, de braves élèves, avec qui la relation pédagogique n'était pas rompue. On travaillait, ils étaient de bonne volonté, ils pétaient les plombs une fois de temps en temps, mais quand même, tant bien que mal, ça fonctionnait. Mais ces élèves avaient de gros soucis sur l'acquisition du savoir du programme. Autrement dit, ça montre clairement que, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire avaler, et je crois que du coup la recherche en bioéthique est déjà trop des idées reçues, ce qui est déjà mon début, ça n'est pas vrai que c'est parce que ces élèves faisaient des ozos qu'ils n'apprenaient pas. Chronologiquement, c'est pas vrai. C'est montré. Et par des recherches accumulées. C'est parce qu'ils n'apprennent pas qu'au bout d'un moment, ils font les zozos. Alors, je ne veux pas faire le démago, on est tous d'accord, une fois qu'on fait les zozos, c'est clair qu'après, c'est compliqué d'apprendre. Voilà, pour voir les pleines choses qui sont passées. Mais l'idée selon laquelle il faudrait d'abord le faire marcher au pas, peut-être ensuite on envisage, si on peut leur enseigner quelque chose, de toute évidence, on repose sur une idée fausse. Donc, la question, me semble-t-il, c'est de savoir pourquoi ils ont pu traverser la maternelle et l'élémentaire. Parce que ces élèves, quand on les interroge, ils disent « qu'est-ce que c'était bien l'école élémentaire ?» C'est le paradis perdu. Et tout d'un coup au collège, les profs ont tous des salauds, des connards, des racistes. Et comment, il y a deux mystères, c'est comment ils prennent conscience de leurs difficultés d'un coup au collège, et pourquoi ils n'avaient pas conscience qu'ils rencontraient des difficultés en élémentaire. Et si ça peut vous consoler, mais je ne suis pas sûr que ça vous console, des difficultés de type similaire, on les rencontre parfois juste en premier cycle, et parfois un peu après. Donc c'est pas exactement les mêmes élèves, un tri a été fait, mais quand même, ça subsiste. Donc, il me semble qu'il y a à regarder à chaque degré du système la façon dont les difficultés se manifestent, avec une part de spécificité, mais aussi, pour ceux que ça interroge, de la question de la démocratisation réelle des études, des acquisitions de savoir, et finalement, des difficultés des élèves. Parce que je crois que il n'y a pas d'élèves en difficulté. Si on enlève les cas des élèves qui font l'objet d'un déficit de déficience intellectuelle, qui est un cas bien répertorié, les élèves que j'ai suivis n'étaient pas bêtes, n'étaient pas déficients, mais ils n'apprenaient pas le savoir du programme. Et donc, pour aller très rapidement, je vais partir de quelques exemples, même si c'est un peu toujours facile de partir d'exemples, mais je vais vous parler, je suis désolé pour ceux qui m'ont entendu des milliers de fois, j'ai l'air de faire vieux et de rajouter, mais d'un ou deux élèves. Bassekou, par exemple, un des élèves que j'ai suivi, je vais prendre un truc un peu sommaire, mais au collège, en cours de, je sais pas, de français, je cherchais quel exemple j'allais prendre. En cours de français, il y a au programme en sixième d'étudier comment ça s'appelle la structure du conte. Je cherche le terme technique, je viens de trouver. C'est des vacances, c'est ça. Le schéma narratif, schéma créancier. J'y suis. Pour les vraiment non spécialistes, en gros, c'est un dérivé de la théorie structuraliste ou morphologiste de la littérature qui a mis en évidence que dans tous les contes de fées, quelle que soit la culture d'origine, donc il y a bien une structure stable, quelle que soit la diversité des cultures, il y a un schéma narratif qui reste le même, je vais faire des termes vulgarisés à la hache, veuillez me pardonner les puristes, il y a toujours une situation initiale dans laquelle il y a un équilibre, puis il y a un élément perturbateur, le petit poussé, c'est la famine, il crève de faim, donc il y a une quête. Comme il crève de faim, on les perd dans la forêt pour avoir moins de bouche à nourrir. Donc la quête, c'est revenir à la maison. Il y a des alliés que le héros rencontre. Il y a des méchants que le héros rencontre qui sont des opposants. C'est l'ombre, c'est le loup, selon les contes, etc. Et au final, la situation est résolue. Et on arrive à un nouvel état d'équilibre, c'est la situation finale. Il y a le schéma narratif, et il y a le schéma actantiel, M. Benjamin Benson les présenta. Le schéma actantiel, il y a l'actant qui est le héros qui fait l'action, il y a l'opposant, etc. Bref, il y a des invariants. Et Bassekou est dans une classe où l'enseignant de 6e veut faire étudier le genre littéraire, ça y est, le terme est revenu, le genre littéraire qui est le conte, et pour ce faire, il va essayer de mettre en place une séquence de 6 semaines dans laquelle on va passer par une première phase où on va faire émerger la notion, où les élèves vont lire des contes. Et pour le premier conte, par exemple, qui est le petit chaperon rouge, le prof va lui-même faire la démonstration où il va extraire de la lecture du texte les les cas appliqués qui correspondent aux catégories génériques, en gros, ils ont montré que l'actant, c'est le petit chaperon rouge, que l'opposant, c'est le loup, etc., etc. Et ainsi de suite, il va faire lire 9 autres contes aux élèves. Et pour chacun des 9 autres contes, dans une sorte de cours dialogué, il va essayer de faire émerger dans le groupe classe les réponses pour faire identifier. Et au fur et à mesure, ils vont rédiger un tableau de synthèse. Et avec un joli tableau de synthèse à l'arrivée, où il y a actant, héros, si vous voulez, la liste des héros, après le titre du conte, les opposants. L'idée étant que le tableau synthétise un grand principe et que finalement, dans les cases du milieu, il n'y a que des exemples de cas appliqués et que ce qui importe, c'est finalement le titre des colonnes et la comparaison entre les titres des colonnes, qui sont les différentes catégories, qui sont un outil de classement pour avoir prise sur la lecture de chacun des comptes et avoir quelques catégories de repères. Mais un élève tel que Bassépou, ben lui, le seul compte qu'il connaît dans les 10 qui sont étudiés en classe, c'est le petit chaperon rouge. C'est le prof qui fait le boulot, donc il n'y a pas à se casser la tête. Pour lui, son boulot, c'est de recopier. Il repart avec le tableau tout bien recopié. Les autres comptes, il ne les connaît pas. Donc, pour lui, il s'avère, je creuse ça dans l'entretien plusieurs fois à la suite, il s'avère qu'il ne lui vient pas à l'esprit, qu'on lui dit que ben, pourquoi tu veux que le prof, il nous pose des questions dont on ne sait pas la réponse. C'est une idée de prof, quand même. On pose des questions dont on sait pertinemment que les élèves n'ont pas la réponse, mais on leur pose la question, non pas pour qu'ils répondent, mais pour qu'ils se la posent. Il n'y a que nous qui savons ça. Et nous en parlons, nous. Bassépou, lui, c'est un enfant normal. C'est-à-dire qu'il vient à l'école sans savoir ce que c'est que l'école. Hein, donc, ce n'est pas un élève en difficulté, c'est un enfant normal. Donc, il vient à l'école sans savoir ce que c'est que l'école. Et lui, on lui dit d'écrire des mots dans des cases du tableau. Il écrit des mots dans des cases du tableau. On lui dit lire, il lit. On lui dit de répondre. Quand il a la réponse, il ne l'a pas, il se tait. Voilà. Et ainsi de suite. Ces élèves-là ne sont pas des mondes, ce n'est pas des sauvageons. C'est même presque inquiétant, c'est tout le contraire au début. Ils font tout ce qu'on leur dit de faire, sans imaginer qu'il y a un truc à apprendre. Et au bout du compte, il repart à la maison, au bout des 6 semaines, avec tout le joli tableau bien recopié du schéma potentiel et du schéma narratif, avec la belle définition en bas, le prof leur dit, ben, attention, il ne faut pas apprendre la définition par cœur, il faut comprendre ce qu'on a fait en cours. Mystère et bout de gomme, si on apprend par cœur, qu'est-ce qu'on apprend? Il n'y a rien à apprendre. Donc Bassépou, lui, il est quand même un peu tracassé, il apprend bien son tableau par cœur, il arrive le jour de l'interro, contrôle de fin de séquence, scandale, on nous interroge sur un autre compte que les 10 qu'on a appris en classe, on nous fait un compte d'une demi-page, et il faut extraire les catégories, et en plus on nous livre un tableau où il y a les titres des colonnes tout marqués, il n'y a qu'à compléter. Et donc, dans le texte, lui, en plus, il n'a vraiment pas de bol, il y a un personnage qui s'avère être le prince. Sauf que dans un des 10 contes qu'il a appris, je crois que le prince, c'était le héros, je ne me rappelle plus, et là, c'est le méchant, donc c'est l'inverse. Donc, il sort de là en disant, c'est dégueulasse, il n'y en a qu'un seul qu'on avait vu, c'est le prince, ça j'ai su, mais les autres, je n'ai pas su répondre. Ah, et en plus, pas de bol. C'est la misère jusqu'au bout. Et partant de là, ce que je suis en train de vous raconter au-delà de l'anecdote, c'est que si ça s'était passé une fois avec un prof dans une classe, je ne serais pas là en train de vous en parler. Mais progressivement, en sixième, ça se passe dans toutes les disciplines, de façon récurrente dans chaque discipline, et avec tous les profs, presque. Et d'où l'inquiétude qui grandit chez ces mômes avec des questions. Comment ça se fait qu'on nous interroge sur des trucs qu'on n'a pas vu en cours? Comment ça se fait que les profs, ils ne veulent pas répondre quand on leur pose des questions, ils disent que c'est le contrôle? Tout le mystère, c'est pourquoi les mômes, ça n'était pas rendu compte, c'est moi plus tôt. Donc je ne vais pas faire long, mais en gros, en élémentaire, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que la forme de relation pédagogique alimentaire, je ne dis pas c'est la faute alimentaire, c'est la faute au collège. La question c'est comment, à chaque degré de la maternelle à l'université, on prépare les élèves à ce qui nous attend par la suite. Ce n'est pas une question qui est imputable à un seul des degrés. En élémentaire, la forme de relation pédagogique fait que, et c'est pas condamnable sur le principe, on veille encore à ce que chaque élève rentre dans la tâche. Ça se fait encore en sixième. Mais le jour du contrôle, c'est le contrôle. Ce qui n'était plus pas tout à fait encore le cas en élémentaire. En élémentaire, les mômes, ils arrivaient à harceler la maîtresse de questions à tour de rôle pour lui tirer les verres du nez et finalement reformuler la consigne de départ qui était qu'est-ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce qu'il faut dire de ce qu'on a compris, en une consigne plus opérationnelle de qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, à force, on l'amorcelle la tâche. En fait, il faut chercher qui c'est qui fait l'action. Et ainsi de suite, on y arrive. Et les mômes arrivaient à faire le travail, le produit fini. Moi, je disais, ils arrivaient à mettre en place une attitude de conformité qui n'est pas condamnable, il en faut une conformité pour faire les choses en ordre, etc. Mais qui ne se doublait pas d'une attitude de compréhension. Parce qu'ils n'avaient pas besoin. Ils arrivaient au produit fini sans avoir besoin de comprendre. Donc, franchement, ils ne passeraient pas la tête. Même, ils n'avaient même pas conscience. Et du coup, ces élèves, me semble-t-il, ce qui se passe pour eux, c'est que ce ne sont pas des élèves qui arrivent en étant des élèves contre l'école. C'est pas des élèves. Ce sont des élèves qui, au contraire, ont une grande envie de reconnaissance et de réussite. Mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, quelque temps plus tôt, ça se passait bien, pourquoi maintenant ça se passe mal. Et donc, sincèrement, il vaut mieux passer pour quelqu'un qui fait l'imbécile et qui ne travaille pas plutôt que pour quelqu'un qui se donne du mal et qui n'apprend pas. Donc là, je ne fais pas le film, vous le connaissez aussi bien que moi. Mais il me semble que ça interroge un autre volet que je ne vais pas développer, je ne fais que l'évoquer si vous me reviendrez, qui est en gros la deuxième partie du livre. C'est que peut-être, au-delà des apprentissages, parce que là, j'ai plutôt développé un exemple sur qu'est-ce qui bloque dans les apprentissages. Il y a d'autres registres de l'activité d'élève à l'école qui sont finalement qui on est quand on est à l'école. Est-ce que je suis l'enfant porteur de mon histoire perso ? Est-ce que je ne suis que ça ? Est-ce que je suis l'élève, membre du groupe de classe qui est là pour obéir à des consignes parce que c'est un adulte et que c'est comme ça ? Ou est-ce que je suis un apprenant et que finalement ce que me dit le prof, qu'il soit sympa, méchant, sympa, salaud, voilà. C'est pas le plus important, que ça soit un salaud, que ce soit quelqu'un de gentil ou de différent, on est là pour apprendre des savoirs ensemble. Donc, enfant, élève, apprenant, évidemment, mais simultanément un peu les trois. Mais les élèves que j'ai suivis, eux, n'arrivent pas à l'école en sachant déjà qu'il faut être les trois. Être un enfant, ça, ils savent. Être un élève, ils savent à peu près qu'il y a un adulte qui représente une institution qui édite des notes, ça ils ont compris, ils savent à peu près, il faut filer nous. Mais apprenant, si on ne leur met pas le pied à l'étrier, ils ne savent pas forcément. Et donc, ça fait partie de prérequis, dirait, bon, les passeront les autres, ça fait partie de prérequis que l'école présuppose, mais est-ce qu'on les transmet vraiment ? Et l'individualisation pédagogique, telle qu'elle est faite, finalement, en élémentaire, conduit beaucoup les élèves à penser que les enseignants nous filent des travaux qui sont faciles à faire parce qu'ils sont bien gentils. Je donne un exemple. Il y a une clé, ouais. Non, même pas. Bon, tant pis. En élémentaire, y compris dans les formes langagières, les enseignants disent plus souvent, je vais caricaturer, qu'en collège, ça s'entend encore quand même, vous allez me faire ce travail. C'est une relation très personnalisée entre le prof et l'élève. Ou, par exemple, j'ai vu, pour expliquer en quoi le schéma on n'arrive jamais dans une salle où les tableaux sont effacés. Je ne sais pas pourquoi. Je fais des bêtises. Un exemple parmi d'autres, pour expliquer pourquoi le schéma de l'interrupteur est celui tel qu'on le connaît. La prof a fait une longue séquence, elle leur a expliqué, etc. etc. On va dire que je vais aller vite. Là, ça c'est un fil avec une pince crocodile attaché à un clou. Ici aussi, la même crocodile. Ce clou transperce une lamelle recouverte d'aluminium et passe à travers pour se ficher dans, en gros, une planchette en bois qui est isolante, etc. On va faire un petit exercice ensemble. On va se mettre dans notre tête à la verticale des deux clous et on va se rendre compte. Mais zut, je l'ai fait à l'inverse. Pardon, excusez-moi. On va se rendre compte que les deux clous, on les retrouve là, les deux fils, on les a là, et la lamelle qui pivote et qui peut faire contact, on le retrouve là. En gros, parce que les premiers qui ont travaillé sur l'électricité avaient pour objet réel interrupteur cet objet-là, et qu'ils ont symbolisé en utilisant les éléments conducteurs, même si les interrupteurs ne ressemblent plus du tout à ça, ça reste ça le symbole. Bon, bref, la maîtresse leur fait construire ça lors de la première séance de la séquence de 6 semaines, et chacun a son petit objet à soi, marqué avec son nom, parce qu'il faut les motiver. On rentre dans une séance de bricolage qui est censé faire écho à ce qu'ils connaissent à la maison et qui fait en partie écho. Et du coup, cette motivation externe à l'apprentissage en apparence va être utilisée avec un feedback plus tard sur, mais en fait, ça, le symbole de l'interrupteur, c'est ça parce qu'on a symbolisé l'objet qui était là, les éléments conducteurs. Sauf que dans toute la séquence, au sortir des 6 semaines, ce que les élèves ont compris, c'est que Noël, la prof, qu'est-ce qu'elle est sympa. Elle nous a juste fait symboliser les éléments conducteurs. Parce que tu te rends compte, s'il fallait dessiner l'interrupteur en entier, et l'ampoule, s'il fallait dessiner tous les pas de vis, tous les tortillons du pas de vis, qu'est-ce qu'elle est sympa. Donc, et il y a une confusion entre, oui, c'est vrai que s'il fallait tout dessiner, on ne s'en sortirait jamais, d'où la nécessité de symboliser, surtout de symboliser avec le critère fondamental qui est la conduction, mais je ne reviens pas sur l'apprentissage. Mais les élèves sortent de là sans savoir que ce symbole de l'interrupteur, c'est le même de Stockholm à Soweto et de Pékin à Los Angeles. C'est-à-dire que c'est une convention propre à la classe. L'individualisation pédagogique produit cet effet-là. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais ça y contribue. Et au sortir de ça, ce qui se passe, c'est que tant que ça se passe bien, que les élèves sont valorisés par des notes, ils en concluent que j'ai des bonnes notes parce qu'on me donne des travaux sympas, réalisables. Donc, j'ai un enseignant sympa qui me valorise. Ben, le même schéma explicatif demeure lorsque tout va mal, qu'on a de sales notes. Si on a de sales notes, ben, c'est parce que ce salaud-là, il nous donne des trucs en feu pour nous mettre en difficulté. Et en plus, pour le schéma du compte, comment ça se fait que tous mes copains, ben, c'est vous, c'est quoi, tous mes copains à moi, qu'on est tous noirs et arabes, nous, on ne savait pas que le jour de l'interro, ça serait notre ronde. Et comment ça se fait que les bouffons du premier rang, eux, ils le savaient. Il n'y a qu'une solution, ils ont été tuyautés. Ils disent pas aussi clairement ça, mais... Et ce que je veux dire par là, c'est que ce que l'institution nomme rapidement des élèves en difficulté, je ne sais pas ce que c'est en difficulté, qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté? Ils ne savent pas ce qu'on attend d'eux. On ne leur fournit pas les explications de pourquoi eux ils ont 2/20 et les autres ils ont. On leur dit vous n'avez pas travaillé. Mais si, il a pris comme un couillon, un tableau qui était compliqué à les nourrir, parce qu'il ne comprend rien. Si, il a passé des heures. Et du coup, il me semble que ce qui est en question, là, c'est aussi pour la recherche de tordre le cou à certaines conceptions et peut-être de déplacer des conceptions qui, sans confondre le registre de la compréhension et le registre des choix politiques ou institutionnels, permettent d'éclairer un peu l'un par l'autre. Parce qu'il me semble que, pour moi, au bout du compte, j'en tire la conclusion que les élèves en difficulté, ça n'existe pas. En difficulté par essence, il y a des élèves qui rencontrent des difficultés, mais finalement, ces difficultés ne sont pas d'ordre d'une difficulté d'un registre spécifique. Alors, je ne veux pas faire des magots. À force de rien comprendre, ces élèves deviennent réellement insupportables. Le groupe de ceux qui ont que des mauvaises notes se soude et devient une réelle opposition dans la classe, et ça devient invivable. Mais ça, c'est pas une donnée, c'est un construit. Partant de là, il me semble que une des choses qui pourrait être regardée, c'est que, je reviens juste à ce propos, au rapport du HCE, ou d'autres, je ne sais plus comment il s'appelait, le rapport précédent là, sur les élèves en difficulté, là. Le rapport partait du constat qu'il y a des élèves en difficulté, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut les traiter. Une fois que ça s'est produit, c'est faire l'impasse sur le fait que les difficultés, elles ne sont pas inéluctables, que ces difficultés, elles tiennent pas comment, je dis pas qu'elles tiennent à l'école, elles posent la question des missions qu'on remplit l'école, et du coup, me semble-t-il, ça permet d'éclairer les choses autrement, parce qu'on voudrait nous faire croire que d'un côté, il y a des élèves en difficulté, selon les repères qu'on prend, 8%, 12%, 15%, selon qu'on prend les certains du système sans qualification, selon qu'on prend les mauvais lecteurs, etc. etc. Que d'un côté, il y a 8-15% pour qui ça ne va pas, et puis, de l'autre côté, toute une échelle de gradation, et puis, au bout du compte, les bons élèves, pour eux, ça roule. Mais il me semble que ce partage amène à ne pas pouvoir penser le problème. Il me semble que les élèves qui nous sautent à la figure, comme Bassicou, comme d'autres, pour moi, sont les révélateurs, parce qu'ils ne comprennent rien, de ce que une majorité d'élèves a du mal à comprendre et comprend partiellement, dans certaines disciplines, un peu. Donc, ils n'ont pas des difficultés. Ce ne sont pas des élèves à part, au sens où ils auraient des difficultés d'une nature particulière. Le problème que rencontre Bassicou sur la compréhension du schéma potentiel, je ne vois pas en quoi c'est des difficultés d'une nature particulière. Mais ils sont spécifiques, ces élèves, en ceci que, à force de ne rien comprendre dans toutes les autres, dans toutes les disciplines, ils finissent par décrocher. Donc, il me semble que ça produit un effet zoom, un révélateur. Et ce que ça amènerait à penser, me semble-t-il, c'est un peu les choses autrement. Je vais prendre juste le chiffre, parce que j'ai peur de dire une bêtise.
C'est surtout que tu as peur de les parler.
Pardon, je termine. Pour conclure, de mémoire, c'est pour ça que je te demandais l'heure, tu fallait me dire une bêtise. Voilà. Aujourd'hui, au collège, puisqu'on a les stats pour le collège précises, il y a 54% des élèves. Si on compte par catégorie de collégien, pas par les parents, il y a 54% des élèves qui ont un parent référent, on ne va pas rester sur chef de famille, mais bon, c'est un repère, 54% des collégiens qui ont un parent référent qui est ouvrier 27%, employé 17%, ou sans activité 10%. Vous connaissez les catégories aussi bien que moi, donc je ne les décris pas. Ça veut dire que très probablement, il y a 54% des collégiens qui ont à la maison, le parent référent pour l'éducation nationale, c'est souvent le plus diplômé des deux, qui ne peut pas les aider au-delà d'un certain niveau de scolarité. Donc, ça n'est pas vrai, de mon point de vue, qu'un élève normal, c'est celui qui arrive à l'école en étant au fait de toutes les évidences scolaires. L'élève normal, je pense qu'on va s'y prendre à la norme quantitative, au moins à la majorité, à une moitié, au sens où il arrive à ne connaissant rien des attendus scolaires. Et juste un mot, il me semble du coup que là où moi ça m'amène à penser politiquement, c'est une question de recherche, c'est que pourquoi on en est à penser que la norme des élèves de la maternelle à l'université, ce seraient ceux qui comprennent plus ou moins spontanément ce que l'institution a construit et attend d'eux, et que les politiques de traitement de la difficulté scolaire sont des politiques de mise à l'écart pour se dire, ben, finalement, le train avance, on ne se pose pas de questions sur la façon, peu de questions sur la façon dont le train avance, et on met à l'écart au collège. Alors, il semble que, dans la dernière période, on veut nous dire, ben, finalement, on fait deux à bas, du simpliste pour tous et mieux pour les autres, mais on, du coup, on différencie. Il me semble qu'une question que ça amène, ça sera le dernier mot, c'est plutôt que de penser comment faire une éducation à plusieurs vitesses en fonction des difficultés constatées a posteriori, ça pourrait amener, mais c'est pas une idée nouvelle, mais elle reste d'actualité, à se dire mais que devrait être l'école partant du principe que l'élève normal c'est celui qui ne sait rien à l'avance de ce qu'attend l'école. Et du coup, quelle progressivité à chaque degré du système pour construire ce qui est attendu à la phase suivante. Et ça pose du coup une autre articulation entre construction par la recherche et construction politique, qui n'est pas un rapport d'expertise que je combats, qui n'est pas un rapport d'indifférence réciproque, qui n'est pas un rapport d'instrumentation, mais je ne sais pas le définir, mais il reste à construire. Voilà.
Pas du tout, c'est juste pour prévenir, mais il fallait un moment arrêter. Juste pour faire le lien, c'est parce que quand tu parlais, j'ai Il a pensé, bon, on a 15% de difficulté de sortir du collège, on va dire, malgré les fuites à l'intérieur du collège. Et pourtant, en seconde, on vérifie nos taux, mais si on s'est trompé avec Sylvain, vous le dites, redoublement réorientation, c'est 17%. Donc, malgré tout, on a, nous, à se poser cette question en seconde, puisqu'on les accueille en seconde, ils ont déjà été, on va dire, filtrés, enfin, si je le filtrais. Et dans le même temps, on en a encore 17% qu'on va d'élèves en difficulté, dont on a construit plutôt la difficulté. Dans cette question de la progressivité des apprentissages et cette question, l'élève est celui qui ne sait pas, donc l'élève est celui qui doit comprendre intuitivement, c'est une question qu'on doit se poser sur le monde. Alors, je voudrais saluer l'arrivée de nos camarades d'Aix-Marseille, Alain, Pierre, et je vais passer tout de suite la parole à Jérôme pour une bonne demi-heure.